France Inter. .fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La police française et les Algériens, 1944-1961. Le 17 octobre 1961, la Fédération de France du FLN appelait les Algériens de la région parisienne à une démonstration de masse contre le couvre-feu qui venait de leur être conseillé. Les rassemblements furent dispersés par tous les moyens et les représailles après les arrestations furent pires encore. Mais le 17 octobre, c'est le résultat d'un engrenage qu'il faut restituer. Dès 1956, la métropole, comme on disait alors, était devenue un autre front de l'insurrection algérienne. Le FLN en arrachait le contrôle à l'autre tendance du nationalisme, celle de Messali Hadj, attentat interalgérien, attentat contre la police. Celle-ci retrouve le répertoire traditionnel de surveillance des Nord-Africains qu'elle avait quelque peu rémisé depuis la libération, à commencer par la rafle. Hé,
hey, police, ouvrez. Chacun reste en place, hein.
Le bain-mort est rempli de Français musulmans qui sont couchés sur des nattes.
Bon, alors regardez surtout là-bas dans le coin et laissez bien les gens devant, de façon à ce qu'au dernier moment, on ne s'aperçoive pas comme l'autre jour qu'il y a un revolver et qu'on ne trouve plus le propriétaire.
Emmanuel Blanchard est l'invité de la marche de l'histoire aujourd'hui qui vient de publier aux éditions Nouveau Monde « La police française et les Algériens ». Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Algériens, restituons le climat d'avant le début de la guerre d'Algérie, d'après la Deuxième Guerre mondiale. On entendait prononcer là, dans cette archive le mot de « Français musulman d'Algérie ».
Effectivement, il faut ici distinguer sans doute ce qui sont des marqueurs culturels, des marqueurs juridiques. Et effectivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vont être négociés le statut de l'Algérie et le statut des Algériens. Et au terme du statut de l'Algérie de 1944 et 1947, hein, les Algériens sont considérés comme des nationaux et des citoyens français. Et le qualificatif requis est alors celui de Français musulmans d'Algérie, qui ont donc toute la possibilité de s'installer en métropole et de circuler librement.
Sans passeport, sans visa, sans autorisation particulière pour entrer.
Non, il leur suffit de se doter d'une carte d'identité au moment où ils arrivent en France. Et ils sont dotés en France de la pleine égalité des droits avec les autres métropolitains, avec l'ensemble des Français. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'en Algérie, il persiste encore des discriminations politiques, électorales, avec notamment le second collège.
C'est-à-dire que la situation est moins coloniale à Paris qu'à Alger pour eux, et moins coloniale pour eux que pour d'autres colonisés qui, nombreux, sont là dans la capitale de ce qui est encore l'Empire.
Effectivement, pour comprendre l'Empire, il faudrait utiliser la notion de citoyenneté intermédiaire. Et parmi les colonisés, les Algériens sont ceux dont le statut se rapproche le plus des Français de métropole, pourrait-on dire.
Alors généralement seuls, souvent illettrés, à 95% ouvriers, les autres commerçants, hôteliers, de très rares professions libérales. Archives qui essaient de donner un aperçu démographique.
Comme New York a ses problèmes portoricains, Paris a son problème nord-africain. Celui de ces hommes qui arrivent presque chaque jour, d'Algérie surtout, et que les centres d'accueil, de fondations privées ou publiques, bien que nombreux, sont impuissants à héberger et répartir en totalité. De 5000 en 1910, le nombre des nord-africains en France passait à 85 000 en 1937 et à 300 000 après 1947, dont 145 000 dans la Seine. Ils sont plus de 100 000 aujourd'hui à Paris. Les plus heureux sont propriétaires ou gérants de ces cafés morts, des corps familiers de certaines rues de la capitale. Les autres, ouvriers non qualifiés pour la plupart, guettés par le chômage, succombent vite aux tentations du bar ou de l'argent facile. Sur le pavé des bas quartiers, dans la zone, ils trouvent misère, vice et violation des règles de leur religion, vivant souvent dans des conditions au-delà de la plus sombre misère.
Les bidonvilles, les foyers qui s'ouvrent lentement et les bas quartiers, la Goutte d'Or, Maubert, la rue Homère. On a l'impression que l'accent doit être mis dans cette période du lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale sur l'action sociale.
Effectivement, les Algériens arrivent en métropole, mais sont considérés comme des migrants indésirables. C'est-à-dire que dans la politique d'immigration qui se met en place à la Libération, le souhait était plutôt de faire venir des personnes d'Europe, et surtout pas ceux qui étaient appelés les Africains du Nord, les Nord-Africains plutôt généralement. Et donc la question va se poser de la question sociale, ça va être formulé en ces termes-là, ou la question de la criminalité nord-africaine. C'est-à-dire que les Algériens vont être appréhendés au prisme de leur pauvreté, de leur visibilité dans l'espace public. Et donc la préfecture de police va peu être réinvestie de missions dites sociales en direction de ces Algériens et de missions qui visent en fait à pouvoir à nouveau enregistrer, ficher, connaître ces populations puisqu'elles échappent au mode opératoire habituel avec les populations étrangères.
Mais il faut dire que le mode opératoire traditionnel avec les Nord-Africains tel qu'il existait avant-guerre et pendant l'occupation a été dissous à la Libération.
Il existait depuis le milieu des années 20 une brigade nord-africaine qui mêlait action sociale, renseignement et action policière. Et en raison du statut adopté en 1944, il devenait impossible que cette brigade perdure. Et donc elle est dissoute à la Libération, mais dissoute contre la volonté de la préfecture de police. Et un certain nombre de dirigeants de la préfecture de police, mais aussi des gradés intermédiaires, vont essayer de remettre en place des façons de faire qui permettent de connaître à nouveau cette population. Et ils vont utiliser du levier de l'action sociale à partir notamment du tournant des années 1950.
Parce que le climat général, il est souvent tendu, dites-vous, avant même que n'intervienne le mouvement nationaliste algérien en France. Beaucoup d'accrochages, beaucoup de bagarres.
Effectivement, l'immigration algérienne est extrêmement politisée. Donc on va retrouver une partie des syndicats algériens, une partie des cadres, des militants du mouvement de Miss Ali Hadj dans la rue, en particulier au moment de ce qu'on a appelé l'activisme communiste des années 1947-1952.
Mais Ali Hadj avait parti lié avec le Parti communiste.
À l'origine de la fondation.
Comme tel par les policiers.
Voilà, effectivement, beaucoup de policiers n'entraient pas dans le détail des frictions entre le mouvement nationaliste et le mouvement communiste. Et donc, ils amalgamaient ces Algériens qui étaient visibles dans les mobilisations ouvrières, les mobilisations syndicales, et qui, surtout, s'organisaient afin de pouvoir apporter une réponse violente aussi, en termes de lutte, contre un certain nombre d'actions policières. Par exemple, le 1er mai 1951 est resté dans les annales policières comme un moment où des dizaines et dizaines de gardiens de la paix ont dû reculer sous la pression d'une bagarre qu'ils avaient initiée contre ces Algériens qui les firent reculer.
Et le 14 juillet 53 ?
Le 14 juillet 53, d'une certaine façon, on assiste à un véritable comportement de vengeance selon les modalités de ce qu'on pourrait qualifier de tuerie coloniale. La manifestation du 14 juillet 1953 c'est un défilé traditionnel, effectivement, République-Nation, où les Algériens sont regroupés en queue de ce défilé. Arrivés place de la Nation, ils essaient d'aller un tout petit peu plus loin que le moment de la dispersion et la police ouvre le feu. Elle ouvre le feu, plusieurs policiers tirent, des dizaines de douilles sont retrouvées et on relève 7 cadavres, 6 Algériens et un syndicaliste. Et on peut dire d'une certaine façon que les Algériens de Paris en 1953 sont traités comme les ouvriers de Fourmies en 1891.
Nous sommes avant le début de la guerre d'Algérie, Emmanuel Blanchard. Fin 54, l'insurrection. À partir de 55, le FLN décide de créer un autre front en métropole et sa volonté, c'est d'apparaître comme la seule émanation du nationalisme, comme le percepteur de l'impôt, comme demain l'interlocuteur du gouvernement français. Et ça passe par une guerre terrible qu'il va mener contre les messalistes du MNA, mitraillage, attentat, assassinat. Le FLN procède dans cette guerre violente avec plus de méthodes que les messalistes l'emportent. Peut-être 4000 morts algériens pendant cette période. À quoi s'ajoutent les attentats dirigés contre les forces de l'ordre et les intérêts français.
L'incendie du dépôt pétrolier de Mourpiane, près de Marseille, a été l'œuvre du terrorisme déclenché en France par le FLN. Le sinistre a fini par être circonscrit. Mais on compte 17 blessés et disparus, et les dégâts sont importants.
Opération policière au bidonville d'Argenteuil, près de Paris, où un quart de police pris en embuscade ayant été mitraillé par des Algériens, un officier de police a été tué et deux autres blessés. Attentat délibéré commis par un commando terroriste en métropole, commando dont la recherche se poursuit méthodiquement dans les nombreux centres où se masse encore aux abords de la capitale une population algérienne travaillée par une intense propagande FLN.
Dans le même temps, les obsèques des quatre gardiens de la paix parisiens victimes du terrorisme algérien ont été célébrées dans la cour de la préfecture de police. À la suite des premières mesures prises par le gouvernement pour prévoir et supprimer les attentats, 3000 Algériens de la région parisienne étaient arrêtés et maintenus au Vélodrome d'hiver jusqu'au terme du contrôle de leurs activités.
Nous sommes fin 57, début 58. Là, une véritable psychose qu'on peut comprendre se déclenche chez les policiers dont les voitures, tout simplement, sont mitraillées quotidiennement. Et alors, on voit le répertoire traditionnel, dites-vous, Emmanuel Blanchard, dans votre livre, La police française et les Algériens, se redéployer. Et dans le répertoire traditionnel, il y a le regroupement au Veldiv, par exemple, ou ailleurs.
Effectivement, une réponse habituelle exercée depuis l'entre-deux-guerres contre les Algériens trop visibles dans l'espace public était la rafle. Et le moment d'août 58 et de septembre 1958, c'est-à-dire après que le FLN ait commencé à viser délibérément un certain nombre de policiers, va être un moment paroxystique, on pourrait dire, de ce répertoire de la rafle. C'est-à-dire que des milliers d'Algériens vont être interpellés dans la rue et conduits au Vélodrome d'hiver, ce qui va bien sûr entraîner un certain nombre de liens mémoriels, notamment avec le MRAP et des journalistes communistes qui vont rappeler l'usage qui avait été fait du
Vélodrome d'hiver. Oui, mais enfin, ça a beaucoup d'inconvénients. Le Vélodrome d'hiver, ça empêche aussi les manifestations traditionnelles de s'y dérouler, d'où la nécessité de trouver d'autres lieux.
Effectivement, et donc cette solution va être provisoire et va s'ouvrir à Vincennes, le centre d'identification de Vincennes, au bois de Vincennes, qui au début de l'année 1959 va permettre de regrouper, de contrôler et de ficher les Algériens qui sont arrêtés dans la rue.
Et puis il y a d'autres camp plus loin en France, le Larzac ?
Oui, effectivement, un certain nombre de camps ont été ouverts à partir de 1958 et en fait, l'objectif de la police va être de pouvoir interner sans avoir besoin de décision judiciaire. Et ça va se faire progressivement au cours des années 1957 et 1958.
Dans le répertoire traditionnel, il y a aussi la rafle. Voici un magazine de la radiodiffusion nationale qui suit sans question une opération.
Opération de contrôle. Que se cache-t-il derrière ce mot ? L'histoire commence dans le bureau du commissaire de police.
Bon, alors mon capitaine,
nous allons faire le bouclage du bain-mort comme samedi dernier.
Oui.
Donnez-moi 5 ou 6 gradés pour aider à la vérification.
Entendu, alors je boucle. Et dès que c'est fait, je vous donne un coup de phare et vous pouvez arriver avec vos agents.
Aussitôt, nous ferons les fondouks et les cafés morts.
Alors en route.
Nous venons d'arriver dans une petite rue. La route est bloquée par les hommes de la CCR. Un projecteur vient d'être dirigé sur l'entrée du bain-mort.
Hé, hey, police !
Ouvrez !
Personne ne bouge maintenant. Vous laissez tout le monde en place.
La fouille est faite consciencieusement, le matelas est retourné, les couvertures aussi.
Carte d'identité.
Ménade Mohamed, première classe.
Alors, regardez, première classe, il a rayé, 50 jours.
La permission par le 9 août au 5 octobre.
Mais ça a été corrigé.
Il faut l'embarquer, celui-là, parce que sa permission finit le 5 octobre. Donc.
Ouais, ouais.
Ménade Mohamed.
Hein,
il est en bas, il est en bas.
Ah bon, il est en bas.
Ouais.
Alors on va l'appeler. Hein.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec comme thème aujourd'hui la police française et les Algériens avant le 17 octobre 1961. Nous sommes Emmanuel Blanchard, ici, fin 56. C'est étonnant, la radio suit une opération de police.
Effectivement, ce son est extrêmement intéressant puisqu'on voit que les rafles, les opérations policières à l'époque pouvaient déjà être extrêmement médiatisées. Et quand on analyse les archives des préfets de police, telles celles de Roger Léonard par exemple, on voit qu'un certain nombre de fois, ils décident d'organiser une rafle en prévenant les journalistes et en disant l'utilité en termes de contrôle sera sans doute faible, mais ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que cette rafle soit connue.
Et nous sommes sous un gouvernement socialiste, rappelons-le, à l'époque Guy Mollet.
En 1956, effectivement.
Et donc, au moment de cette archive, fin 56.
On a affaire déjà à une forme de police-spectacle, selon les termes mêmes d'un certain nombre de préfets de police.
Alors, dans le répertoire, il y a aussi peut-être le retour, le refoulement, le retour au douar d'origine, quand ce n'est pas à la prison. Le déserteur qu'on a repéré là, il ira en prison. D'autres, on va les renvoyer chez eux.
Effectivement, comme les Algériens ne sont pas des étrangers, il est impossible de les expulser selon les modalités de la police des étrangers. Et donc, les forces de police recherchaient les déserteurs, mais aussi les personnes en situation de vagabondage. Et en fait, ce qui était appelé le rapatriement à l'époque, qui permettait de renvoyer en Algérie les personnes indigentes, pouvait s'apparenter à des rapatriements forcés, à des retours forcés, qui permettaient d'expulser les Algériens comme des étrangers. Bien sûr, c'est relativement peu développé avant la guerre d'indépendance, puisqu'il y a une question de coûts financiers, de moyens administratifs à mettre en œuvre. Mais à partir du moment où la guerre d'indépendance va être un problème politique touristiques importants, ces retours vont se multiplier.
Mais comprenez le point de vue de la police, elle ne peut pas jouer sur l'entrée, donc elle va jouer sur la sortie.
Effectivement, c'est une politique d'inhospitalité pour essayer de reconduire des personnes qu'on ne peut pas contrôler à l'entrée.
Inhospitalité, on est bien au-delà de l'inhospitalité. Début 1958, la guerre continue de faire rage entre messalistes et FLN, à l'avantage du FLN. Les attentats continuent. Et avant même le retour du général de Gaulle en 1958, retour auquel n'est pas étranger l'activisme de certains milieux policiers, la préfecture de l'île de la Cité se voit dotée en mars 1958 d'un nouveau chef destiné à y demeurer longtemps.
Je crois qu'il est logique de placer à cet endroit notre émission une conférence de presse tenue ce matin par le préfet de police à Paris. J'ai nommé M. Maurice Papon. Conférence de presse, Jean-Pierre Caudy, qui avait trait à la situation des travailleurs algériens en France et plus particulièrement à Paris.
Eh bien, vous savez que les commandos d'action sociale se rendent dans les meublés afin de s'enquérir des conditions de logement, de les faire améliorer éventuellement, ainsi que des formalités administratives au milieu desquelles de nombreux Nord-Africains se sentent perdus. Où en est l'expérience ? C'est ce que j'ai demandé à M. Maurice Papon, préfet de police.
Après un premier mouvement de réticence fait dans la population algérienne qui s'expliquait un peu par le caractère inattendu et insolite de cette entreprise, déjà les plus précieux enseignements ont été tirés de la première opération test qui s'est faite vendredi soir dans le 15e arrondissement. Par conséquent, notre propos est aujourd'hui de développer cette expérience et sans doute d'ailleurs de transformer ces commandos d'action sociale en dispositifs permanents qui seront ouverts et continuellement à la disposition de la population ouvrière algérienne dans les quartiers à forte résidence nord-africaine.
Alors il s'agit ici d'opérations sociales, parce que la prévention doit continuer, dit-on à la préfecture de police. Mais même quand il s'agit d'actions sociales, Maurice Papon, le nouveau et encore assez jeune préfet de police, c'est un homme de commando.
Mais Maurice Papon arrive de Constantine, où il était IGAM, super préfet.
IGAM, oui, c'était comme un préfet de région aujourd'hui.
Voilà, un super préfet chargé notamment des relations avec l'armée. Et il est rappelé à la préfecture de police pour une double raison. Remettre de l'ordre dans la maison, puisqu'un certain nombre de policiers s'étaient rebellés contre le parlementarisme à la fin de la 4ème République. Et s'occuper de ce qui était appelé la question nord-africaine. Et il revient avec
Il revient donc avant le retour du général de Gaulle.
Oui, le 13 mars 1958, il est en poste à partir du 15 mars. Et il revient avec des idées qui sont celles qu'il avait en partie mises en œuvre en Algérie. C'est-à-dire qu'il va à nouveau chercher à mixer action sociale et renseignement policier. On le voit bien ici avec le terme commando d'action sociale, qui dans un premier temps consiste en fait à aller identifier les Algériens dans les hôtels et à les brasser, pour utiliser le langage de l'époque, c'est-à-dire à les changer d'hôtel pour que le FLN soit désorganisé. Et il annonce dans cette conférence de presse que ce type de pratique va être pérennisé dans le cadre de nouveaux organismes. C'est en fait l'arrivée d'officiers des affaires algériennes, donc des militaires habitués à la situation coloniale, qui vont créer un nouveau service d'aide technique, un service d'assistance technique qui sera là, soi-disant pour aider aux démarches administratives, apporter un soutien social, donner des liaisons entre l'Algérie et la métropole, mais surtout pour alimenter un immense fichier.
Alors nous sommes en état de guerre, dit Maurice Papon. C'est ce qui explique la militarisation de la police parisienne, dites-vous. Alors, militarisation qui passe par l'arrivée de militaires, mais aussi par la constitution de toutes sortes de commandos, forces spéciales, forces auxiliaires, qui échappent, comment dire, au formalisme et au juridisme.
Effectivement, l'obsession de Maurice Papon est de sortir des temps ordinaires pour pouvoir imposer une forme de police de temps de guerre. Et il essaie de le faire de la manière la plus discrète possible dans un premier temps, puisqu'il a conscience que la situation n'est pas la même en métropole qu'en Algérie. Il existe toujours des forces démocratiques, une presse qui certes est censurée, mais continue de suivre un certain nombre d'actions policières. Et il va commencer par implanter de façon la plus discrète possible ses officiers des affaires indigènes. Mais à partir du début de l'année 1960, ils vont pouvoir s'appuyer sur ce qui était appelé la force de police auxiliaire, plus connue sous le nom des Harkis de Paris, c'est-à-dire des militaires qui revêtent un uniforme policier pour mener la guerre contre-révolutionnaire en métropole.
C'est-à-dire que nous sommes en métropole dans une situation à peu près équivalente aux yeux de Maurice Papon à celle qu'il a connue à Constantine ou à celle que connaissent les militaires en Algérie.
Effectivement, Paris est dans une situation inédite, dans le sens où c'est sans doute la seule ville qui a connu, au moment des décolonisations, une forme de guerre impériale en son sein, en raison même de la présence à Paris de 100 000, 150 000 Algériens organisés par le Front de Libération Nationale.
Quand vous dites guerre impériale, c'est aussi guerre civile entre les nationalistes algériens.
Effectivement, ça avait déjà été souligné, puisque cette...
Ça mérite d'être redit, parce que c'est complètement oublié.
Cette guerre civile a fait plus de 4 000 morts, mais c'est surtout déroulé les années 1956 aux années 1958. Le Front de Libération Nationale s'étant imposé ensuite, il se retournait en partie contre les forces de police, mais a surtout été la cible privilégiée de ces forces de police.
Oui, mais en 1961, on va en venir au 17 octobre 1961. Un peu plus tard, les négociations déviantes ont été annoncées. Au printemps 1961, et le général de Gaulle s'engage dans une voie qui n'est pas celle de la poursuite du conflit. Et néanmoins, le 5 octobre, sans que le général de Gaulle ait présidé la réunion, un conseil interministériel recommande, entre guillemets, aux Algériens le couvre-feu entre 20h30 et 5h30. Les Algériens de région parisienne sont appelés par la Fédération de France du FLN à une marche. Vous dites une marche, une succession, une simultanéité de rassemblements, pas une manifestation. Il faut faire la distinction, selon vous, Emmanuel Blanchard.
Effectivement, les Algériens sont appelés à braver un couvre-feu et d'une certaine façon à être visibles dans les espaces et aux horaires qui leur sont interdits. C'est l'objectif du FLN qui parle de boycottage massif du couvre-feu. Et donc, d'une certaine façon, ils veulent casser ce qui est une césure entre la ville européenne qui leur est interdite et ce qui était appelé à l'époque les médinas par la presse, c'est-à-dire par exemple le bidonville de Nanterre, mais aussi à d'autres endroits où ils étaient soumis à un contrôle policier dont ils voulaient se défaire.
Donc une multitude de rassemblements avec des femmes et des enfants et pas seulement des hommes, puisque un des modèles, c'est la marche pacifique à l'américaine dans la lutte antiraciste. Et l'objectif de la préfecture de police, en revanche, n'est pas de maintenir l'ordre dans et après une manifestation, mais d'empêcher par tous les moyens ces rassemblements.
Les CRS viennent de canaliser la manifestation. J'aperçois un musulman qui est allongé par terre dans une voiture. Les CRS tiennent des matraques et tiennent leurs fusils par leur canon et frappe.
Mais on dit qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés.
Oui, c'est vrai.
J'ai pas vu de musulmans armés, mais enfin j'ai vu des gens qui tombaient et j'ai vu des coups de feu éclater.
Au micro, Jacqueline Baudrier. 9260 musulmans algériens sont encore détenus dans les différents centres où ils ont été groupés.
6600 d'entre eux sont au Palais des Sports, de la Porte de Versailles, 1800 au stade de Courbertin et 660 à Vincennes.
Et comment est-ce que nous découvrons le camp de concentration de Vincennes ? Par un hasard, le 6 novembre. La manifestation a eu lieu le 17 octobre. Nous demandons à entrer. Si vous ne nous laissez pas entrer, je demande à un huissier de venir constater qu'on empêche une mission d'inspection du Parlement de faire son office. Et alors, nous constatons que les gens qui sont là ont été matraqués, que certains ont des plaies à la tête, mais beaucoup plus encore, les doigts cassés ou les bras cassés. Et circonstances aggravantes qu'ils n'ont pas été pensées, du tout. Alors, aussitôt après être sorti de Vincennes, on a été reçu par le préfet de police. Oui, il était nécessaire de vérifier, vérifier les identités peut-être, mais matraquer et les tenir dans ces conditions totalement inhumaines, horribles. Bon, eh bien, oui, vous avez raison d'appeler mon attention sur oui, bien sûr, nous avons été pris par l'urgence, mais je peux vous dire que dans les 48 heures, ils seront tous partis vers leur droit d'origine.
Ici Orly, déploiement de forces de l'ordre discret mais inhabituel sur l'aéroport de Paris. 100 à 150 musulmans algériens vont être ramenés en Algérie et assignés à résidence. Ce sont les premiers manifestants de mardi soir qui sont ainsi frappés par les mesures d'assignation. Les musulmans algériens viennent d'arriver dans 4 quarts de la préfecture de police. Ils n'ont absolument aucun bagage, aucune valise.
Tous sont mal rasés, sales. Certains ont sur la tête des pansements.
Il fait très froid sur cette piste d'Orly et c'est maintenant l'appel des assignés qui commence.
Bacha Amar, Bedad Ahmed, Aït Medour, Abdelak.
On ne va pas s'arrêter avec vous, Emmanuel Blanchard, sur le bilan chiffré. J'imagine que Daniel Mermet, dans son émission cet après-midi, qui porte sur le 17 octobre, y reviendra. Vous vous dites quelques dizaines de morts, Jean-Paul Brunet, il y a une dizaine d'années, avec les seules sources policières françaises, aboutissait à un chiffre inférieur. On ne va pas non plus s'arrêter sur les protestations. L'ancien député qu'on entendait, là, c'est le socialiste André Chandernagor de la Creuse, mais il y a aussi eu des parlementaires centristes comme Claudius Petit qui sont intervenus. Mais moi, je reviens sur la contradiction qu'il y avait entre la politique de Maurice Papon et celle du général de Gaulle qui commençait à ouvrir des négociations avec un interlocuteur sur lequel le mot d'ordre à Paris était « tapé dans le tas ».
Oui, mais le général de Gaulle avait une obsession, c'était de négocier avec un FLN défait. Donc, de ce point de vue, il pouvait s'appuyer sur un Premier ministre qui lui Michel Debré, qui lui n'avait jamais vraiment accepté que l'Algérie soit amenée à devenir indépendante depuis les propos de Gaulle sur l'autodétermination en septembre 1959. Et Michel Debré, à l'époque, pense encore qu'il est possible de faire émerger d'autres interlocuteurs et de permettre d'arriver à une partition de l'Algérie. Et donc, on a un jeu ici entre les deux têtes de l'exécutif, mais qui sont toutes les deux d'accord sur un point. Le FLN ne doit pas être visible dans l'espace parisien et doit être défait dans l'espace parisien. Donc, le boycottage du couvre-feu est assimilé à une véritable provocation et l'idée est d'empêcher le FLN d'arriver à ses fins politiques, c'est-à-dire d'arriver, de l'empêcher d'être perçu comme l'organisateur de la population algérienne de région parisienne. Et ce jour-là, l'objectif est d'arrêter les Algériens avant même qu'ils arrivent à Paris. Et donc on parle d'un certain nombre d'arrestations, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de personnes sont restées sur le pavé parisien, et même avant, au pont de Neuilly par exemple, puisque la police a ouvert le feu à plusieurs reprises.
Et donc, pont de Neuilly, rassemblement à 17h30 avec les maires des communes de banlieue concernées cet après-midi du 17 octobre. Et puis dans le gouvernement, il n'y avait plus celui qui aurait pu protester, Edmond Michelet.
Effectivement, d'une certaine façon, place nette avait été faite au sein du gouvernement avec le remplacement d'Edmond Michelet par Bernard Chenault, un ministre de la Justice qui était beaucoup moins regardant sur les conditions d'arrestation, voire de torture des Algériens.
Raison d'État, Emmanuel Blanchard. Plus tard, le gouvernement algérien de l'indépendance ne fera pas tout de suite non plus sa place au souvenir du 17 octobre 1961, parce que la Fédération de France du FLN qui avait organisé ce rassemblement n'était plus bien en cours.
On dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le palais des sports où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't you come back.
Don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so.
Et oui, il ne faut pas oublier qu'il fallait libérer le palais des sports de la porte de Versailles. On y attendait, c'était une grande vedette de l'époque.
Ray Charles.
Ce mois d'octobre 1961. Vous avez donné son nom, je donne le vôtre, je le redis. Emmanuel Blanchard, La police française et les Algériens, 44-62 aux éditions Nouveau Monde. Michel Bézikian, Éric Morin, Jacques Sigal à la technique et à la réalisation, Frédéric Martin et Franck Olivard à la préparation de La marche de l'histoire.